le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Tout de suite, le sommaire. Procès Jean-Pierre Bemba, les juges de la Cour pénale internationale annoncent la clôture de la présentation des éléments de preuve, mais aucune date n'est fixée. Et à New York, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC sur les violences sexuelles a été présenté. Ces deux événements font l'actualité de la semaine de ce magazine. Mary Robinson en visite à Bukavu, l'envoyée spéciale de Ban Ki-moon dans les Grands Lacs est allée à la rencontre des femmes victimes des violences sexuelles. Elle sera l'invitée de ce magazine. Elle parlera de l'objectif de cette mission. Enfin, il faut rendre plus fonctionnelle la plateforme de gestion de l'aide et des investissements. C'est l'une des conclusions d'une mission d'évaluation financée par le PNUD et pilotée par le ministère du Plan. Les conclusions ont été présentées mardi dernier au cours d'un atelier. Ce sera notre décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale vient de franchir une nouvelle étape. Les juges ont annoncé lundi dernier la clôture officielle du dépôt des éléments de preuve. Ils n'ont cependant toujours pas fixé la date des plaidoiries et le réquisitoire finaux. Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2002 et 2003 en Centrafrique. Suivez ce reportage de notre correspondant à La Haye, Stéphanie Maupas.
4 mois après l'audition du dernier témoins dans l'affaire Bemba, les juges ont prononcé la clôture officielle des éléments de preuve. Au cours de ce procès, le seul intenté pour la guerre de 2002 et 2003 en Centrafrique, le procureur a appelé 34 témoins, la défense 33 et les juges un témoin. Un temps pressenti pour se présenter à la barre, Jean-Pierre Bemba avait au dernier moment renoncé à déposer. L'essentiel des auditions dans cette affaire s'est tenu à huis clos tout au long du procès. Les juges ont en effet tenu cette affaire bien loin du public, faisant du procès de Bemba l'un des plus opaques entendus devant des juges internationaux. Le procureur et les représentants des 5000 victimes ont désormais jusqu'au 2 juin pour présenter par écrit leurs conclusions. Ce sera ensuite au tour de la défense. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour les plaidoiries et le réquisitoire, mais ces ultimes audiences pourraient se tenir en octobre prochain. En parallèle, des procédures pour outrage à la cour intentées en marge de ce procès et visant Jean-Pierre Bemba notamment, son ex-avocat Aimé Kilolo et le député congolais Narcisse Arédo se poursuivent. Le procureur leur reproche d'avoir suborné des témoins pour qu'ils déposent en faveur du président du MLC. Cette affaire dans l'affaire devrait avoir des conséquences sur l'issue du procès pour crime contre l'humanité intenté contre le sénateur incarcéré depuis bientôt 6 ans. À La Haye, Stéphanie Maupa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Autre actualité cette semaine, c'est la présentation mercredi dernier à New York lors d'une conférence de presse du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC sur les violences sexuelles dans ce pays. Ce document révèle que beaucoup d'efforts ont été réalisés dans la lutte contre l'impunité, mais que le viol reste un fléau répandu. Le compte-rendu avec Jérôme Longuet des radios des Nations Unies à New York.
Les viols et les violences sexuelles en République démocratique du Congo demeurent un problème très sérieux qui a fait des milliers de victimes, surtout à l'est du pays au cours des 4 dernières années, c'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU publié mercredi. Le document indique que si certains progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles, beaucoup reste à faire pour que les auteurs de ces violences rendent des comptes. Le rapport détaillé du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC documente des incidents graves de violences sexuelles enregistrés par le bureau ayant fait plus de 3600 victimes en RDC entre janvier 2010 et décembre 2013. Il souligne le caractère systématique de certains incidents, particulièrement dans l'est du pays, et indique qu'un nombre important de cas sont survenus dans des maisons ou lorsque les femmes travaillaient au champ, se rendaient au marché ou allaient chercher de l'eau. Le document indique que le viol est utilisé comme une arme de guerre pour intimider les communautés locales et punir les civils pour leur appui présumé ou réel aux groupes armés ou à l'armée nationale. Selon le document, les groupes armés ont été responsables d'un peu plus de la moitié des viols et les militaires des forces armées congolaises d'environ un tiers. Le reste des cas a été commis par d'autres agents de l'État. Ces dernières années, 187 condamnations ont été prononcées par des juridictions militaires entre juillet 2011 et décembre 2013 pour des cas de violences sexuelles avec des peines comprises entre 10 mois et 20 ans d'emprisonnement. Le rapport note que de nombreux obstacles entravent l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles. Ainsi, un grand nombre d'entre elles ne dénoncent pas les violences par peur d'être stigmatisées et rejetées par leur famille et leur communauté ou parce qu'elles ne peuvent pas payer les frais judiciaires, médicaux et de déplacement liés aux procédures. Nombreuses sont aussi celles à craindre pour leur sécurité et celle de leur famille. À New York, Jérôme Longuet, la Radio des Nations Unies.
Il faut aussi noter que le Conseil de sécurité a voté jeudi dernier une résolution autorisant l'envoi de 12 000 casques bleus en Centrafrique.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Présentation mardi dernier à Kinshasa des conclusions de la mission d'évaluation de la plateforme de la gestion de l'aide et les investissements, PGAI, une mission financée par le PNUD. Nelly Kankolongo, conseillère au programme à cette agence du système des Nations Unies, évoque les grands axes retenus pour rendre plus efficace la PGAI. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Nelly Kankolongo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère au programme au niveau du PNUD. Le ministre du Plan a présenté mardi dernier les conclusions d'une mission d'évaluation de la plateforme de gestion des et d'investissement, PGAI en sigle, une mission financée, comme on le sait, par le PNUD. Et d'abord, qu'est-ce que c'est la PGAI?
La PGAI, c'est la plateforme de gestion de l'aide et des investissements qui a été mise en place au niveau du ministère du Plan, ministère qui, comme on le sait, regroupe ou centralise tout ce qui concerne les données sur l'aide afin de permettre de faire une meilleure planification du développement du pays.
De l'aide et bien sûr de l'investissement en RDC. Alors, depuis quand elle a été mise en place, cette structure?
La PGAI a été mise en place au ministère du Plan en 2008 avec l'appui financier de la Belgique et plusieurs partenaires ont contribué aussi à son fonctionnement. Et donc depuis 2009 pratiquement, la PGAI est fonctionnelle au niveau du ministère du Plan.
Quel est son rôle précisément?
La PGAI centralise toutes les données relatives à l'aide en RDC. Vous savez qu'il y a plusieurs autres banques de données, notamment au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Direction générale de la dette. Ce sont des banques de données qui recoupent de l'aide d'un certain secteur. Or, la PGAI centralise toutes les données sur l'aide, que ce soit l'aide humanitaire, l'aide au développement, que ce soit les prêts. Et la PGAI est un outil indispensable qui permet de donner aux décideurs tous les éléments qui vont leur permettre de prendre des décisions en matière de l'aide au niveau de la RDC.
C'est une sorte de guichet unique pour l'aide et au développement.
Oui, en fait la PGAI a cette vocation-là afin de collaborer avec toutes les autres banques de données sectorielles de manière à avoir un guichet unique et faciliter aussi bien la tâche au niveau des décideurs qu'au niveau de la partie nationale qui voudrait avoir des données en matière de l'aide en RDC.
Madame Nelly Kankolongo, revenons à la mission d'évaluation qui a été faite. Mais quel a été l'objet de cette mission d'évaluation?
La mission d'évaluation a été faite parce que la partie nationale, disons le ministère du Plan lui-même, avait demandé, après un certain nombre d'années, de pouvoir évaluer un peu le fonctionnement de CEPTI.
Ce qui est normal.
Oui. Et les partenaires au développement aussi avaient estimé qu'à un certain moment, il fallait s'arrêter et voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la plateforme puisse être améliorée. Et c'est dans cette optique-là que le PNUD, en tant que partenaire au développement, a répondu à la requête du ministère du Plan qui avait demandé au PNUD de pouvoir les aider à pouvoir faire une évaluation indépendante de cet outil.
Donc une évaluation indépendante, vous l'avez dit.
Oui.
Et alors, quels sont les principaux leçons à tirer de cette évaluation, madame?
Bon, l'évaluation a porté sur trois axes. Les recommandations qui sont faites correspondent à l'amélioration de ces trois axes. D'abord, l'axe de l'analyse institutionnelle. D'abord, de voir l'environnement dans lequel l'outil est en train d'évoluer.
Institutionnel, c'est-à-dire en rapport avec d'autres ministères, d'autres institutions de la République?
Oui, en rapport d'abord avec le ministère du Plan lui-même et puis en rapport aussi avec les autres parties prenantes, le ministère des Finances, le ministère du Budget et les autres secteurs qui aussi collectent des données en matière de l'aide. Et puis, il y a eu aussi l'axe des données économiques elles-mêmes qui sont produites de la PGAI pour leur fiabilité. Et ensuite, il y a eu l'analyse de l'outil informatique. Donc, les principales recommandations ont porté sur la révision de la l'architecture institutionnelle d'abord pour que la PGAI soit efficace, afin qu'elle puisse vraiment jouer son rôle. La deuxième catégorie de recommandations, c'est par rapport même à la fiabilité des données. Il a été constaté beaucoup d'écarts entre ce que les ont déclaré et ce qui ont enregistré la PGAI, et il a été recommandé qu'il soit mis en place une sorte de commission pour la validation des données afin qu'on puisse avoir des données fiables qui seront acceptées par tous. Et il a été aussi recommandé d'améliorer aussi l'outil informatique en matière d'équipement et en matière surtout de connexion en ligne. Et il a été recommandé en fait au gouvernement de pouvoir aussi s'approprier de l'outil afin de garantir son fonctionnement normal. Donc c'est un peu les trois grands axes des recommandations qui sont sortis de cet atelier.
Oui, vous avez parlé des trois axes qui demandaient une sorte de thérapeutie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la PGAI est vraiment fonctionnelle? Parce que j'ai l'impression qu'elle est malade.
Oui, justement, c'est pour ça qu'il y a eu une évaluation. Parce qu'à un certain moment, vous savez, c'est depuis 2009, dans la vie d'un individu, il y a beaucoup de choses qui se passent. À plus forte raison, un outil d'une institution et d'un outil qui a été mis en place dans un contexte particulier de la RDC qui sortait de plusieurs années de lutte armée, de conflit. Alors, je pourrais dire aujourd'hui que c'est vrai, la PGAI est fonctionnelle, mais nécessite quand même des améliorations. Et ces améliorations vont permettre de pouvoir améliorer de plus en plus l'outil et que l'outil puisse produire des données qui vont servir à des analyses.
Oui, madame, vous avez dit tout à l'heure que la mission a été financée par le PNUD. Parlons maintenant du rôle du PNUD et aussi des partenaires, nos développements dans l'appui apporté à la PGAI.
Le PNUD a une valeur ajoutée certaine en matière d'appui dans tous les pays, d'appui à la coordination de l'aide. Et la coordination de l'aide aide beaucoup plus les pays à pouvoir mieux gérer le flux d'aide et mieux coordonner les partenaires au développement. Au niveau de la PGAI, c'est vrai, le PNUD s'est investi sur demande en 2008 du gouvernement congolais à appuyer, à mettre en place la PGAI et à renforcer la coordination de l'aide. Les partenaires au développement ont beaucoup aidé aussi parce que...
Lesquels, par exemple ?
Il y a eu d'abord la Belgique, dans le cadre de la coopération bilatérale, à travers la CTB, qui est la coopération technique belge, qui a financé en fait le logiciel aujourd'hui qui est en place au niveau de la PGAI et qui a coûté plus de 1 million de dollars. Et il y a aussi des partenaires comme DFID qui s'est investi dans le processus de transparence de l'aide au niveau de la PGAI pour que ces données puissent être publiées et que ces données puissent être vues sur le web par tout le monde. Il y a la Banque mondiale, il y a la BAD et il y a aussi d'autres partenaires bilatéraux qui ont aussi beaucoup aidé à la mise en place et au fonctionnement de la PGAI.
Oui, madame, pour terminer, j'ai une question qui me vient en tête. Alors, on parle de l'aide, on parle de l'investissement et on vient de parler de la PGAI. La RDC reçoit des aides extérieures. Mais la question que les gens se posent, c'est de savoir pourquoi ces volumes d'aide, qui est quand même colossal, il faut le dire, ne se ressentent pas dans le vécu quotidien des Congolais.
Oui, ça c'est un réel problème parce que quand vous voyez le volume d'aide qui est enregistré au niveau de la PGAI et le vécu quotidien des populations, c'est vrai, il y a vraiment une, comme on dit généralement, il n'y a pas photo. Mais il faut dire que la RDC sort quand même de plusieurs années de conflit, il y a beaucoup de choses à reconstruire et il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est pour cela que les partenaires aident le gouvernement à pouvoir asseoir une gouvernance saine, que ce soit au niveau surtout au niveau financier, et surtout à pouvoir mettre en place un cadre de coordination des partenaires. Et ce cadre de coordination va permettre que le gouvernement puisse mieux maîtriser le flux d'aide et mieux harmoniser les interventions des partenaires dans le pays et mieux répartir ce flux d'aide. Et c'est à ce moment-là que on pourra commencer à voir les bénéfices justement de tous ces appuis que la RDC reçoit au niveau international.
Et madame, nous vous remercions.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Nos nouvelles en bref commencent par cette déclaration du coordonnateur humanitaire en RDC sur l'enlèvement des 4 agents des Médecins Sans Frontières au Nord Kivu. Ça fait 9 mois que ces 4 travailleurs humanitaires ont été enlevés dans la localité de Kamango en plein exercice de leurs fonctions. Leur organisation demeure sans nouvelles à leur sujet. Mustapha Soumaré dénonce ces enlèvements qu'il qualifie d'intolérables entraves à l'action humanitaire. Il appelle à leur libération ainsi qu'à celle de tous les civils pris en otage dans la région. Ces actes sont une grave violation aux droits de l'homme et aux droits humanitaires internationaux. Il invite la communauté internationale, les agences des Nations Unies ainsi que des ONG internationales et nationales à se montrer solidaires avec leurs familles. Enfin, le coordonnateur humanitaire plaide pour un plus grand respect des principes humanitaires d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Enfin, la situation des réfugiés centrafricains dans les pays limitrophes préoccupe le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Abou Moussa a conduit une mission au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo du 9 au 11 avril. Objectif, cerner les défis que pose la situation des réfugiés centrafricains et apprécier les besoins des gouvernements et des acteurs concernés afin de développer une réponse, une stratégie conséquente sur le plan humanitaire, politique et sécuritaire. Il faut noter que près de 18 000 réfugiés centrafricains sont arrivés en RDC et près de 8 000 autres au Congo-Brazzaville depuis décembre 2013, selon OCHA.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité de ce dimanche, c'est Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Elle était en visite mardi dernier à Bukavu. Après un entretien avec le gouverneur de la province du Sud Kivu, Mary Robinson s'est rendue au célèbre hôpital de Pandi où sont soignées des femmes victimes de violences sexuelles. Enfin, dans la soirée, elle a rencontré les acteurs de la société civile et les représentantes des organisations féminines de la province. L'envoyé de Ban Ki-moon en parle en long et en large dans cet entretien avec Michel Chirimwami.
Bon, je rencontre avec le gouverneur. Je vais maintenant à l'hôpital, comme vous savez, à Pandi. J'aurai des rencontres avec les groupes de la société civile et les femmes. Je veux donner un message de l'espoir et qu'il faut qu'on ait le plan DDR le plus vite possible pour finir avec les groupes armés, pour avoir la sécurité et la paix, parce qu'avec la paix vient le développement. C'est ça que je veux soutenir le plus possible.
Madame, nous savons que la paix dans les Grands Lacs, ça porte sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous voulions savoir où on en est actuellement et savoir surtout ce que c'est fait du côté du Rwanda et de l'Ouganda, oui. Ce qu'ils font de leur part.
Oui. Enfin, on a fait assez de progrès avec l'accord cadre, parce que je me préoccupe au niveau régional et ici au niveau national dans l'ADC. Et au niveau régional, vous savez qu'au mois de septembre, on avait des benchmarks pour les pays voisins. Et au mois de janvier, dans la rencontre des chefs d'État, on a adopté un plan d'action. Alors j'espère que la presse savent exactement le plan d'action. Parce qu'au mois de septembre, il y aura une autre rencontre des chefs d'État pour noter le progrès. Et moi, je veux que la société civile et la presse m'aident avec le plan d'action. Et le plan d'action dit qu'on ne doit pas soutenir des groupes armés dans les autres pays, on ne doit pas, etc. Et c'est maintenant plus clair que les pays voisins ont des responsabilités. Et dans ce pays, on a aussi les engagements nationaux et
le mécanisme de suivi.
De suivi, c'est ça. J'ai rencontré François Mwamba et ses collègues plusieurs fois à Kinshasa avec le comité de suivi national. Je crois que le plus important à ce moment, je crois, c'est le plan d'action DDA. Et les élections, naturellement. Je crois que vous allez voir des développements aussi. Nous sommes en train d'organiser une conférence pour l'investissement privé pour les Grands Lacs. Alors, nous avons commencé à faire des contacts. Il y a beaucoup d'intérêt. Et je veux que vraiment la mentalité de la région change un peu. Oui, on a des problèmes de sécurité. On a des problèmes des groupes armés. Il faut adresser ça. Mais on a aussi le potentiel. Quand je vois ce pays, je suis plein d'espoir. Et c'est la cocarde d'espoir avec laquelle je travaille.
Madame Romesso, vous parlez évidemment des progrès de l'accord d'Addis Abeba pendant ce temps. Une certaine opinion pense que l'opération de traque des FDLR est négative et aujourd'hui elle a carrément échoué. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que c'est très important que nous prenions au sérieux ce qui a été dit par la conférence de Grand Lac, CRGL, ce qui a été affirmé par les chefs d'État. On va finir avec tous les armes groupes, les groupes armés, FDLR, FNL, tous les groupes armés, les milices, les Maïmaï, tous. Et mon collègue, mon frère, Martin Kobler, est déterminé avec MONUSCO de soutenir le gouvernement et le FARDC. On travaille ensemble à ce point avec, contre l'ADF, mais après l'ADF, c'est le FDLR et tous les autres groupes armés. C'est pas tolérable qu'on a des groupes armés, les milices partout. C'est pas acceptable.
Pour plus de clarté, nous voulions savoir quelle est votre attitude par rapport à ces affirmations, par exemple venant du Rwanda, qui juge déjà négative une opération de traque des FDLR qui n'a d'ailleurs pas encore commencé.
Oui, je viens de Rwanda. J'étais là pour la cérémonie hier, pour le 20e anniversaire du génocide, parce que j'étais là comme président de l'Irlande il y a 20 ans. Et chaque fois, je dis au gouvernement de Rwanda qu'il ne faut pas être négatif sur la volonté ici, que c'est difficile parce qu'on a beaucoup à faire et que je vois des progrès et qu'il faut vraiment encourager. Je crois que les deux pays doivent vraiment être des bons voisins ensemble. Moi, je suis irlandaise, alors je connais le problème. Nous avons un problème avec notre grande île à côté, les Anglais, mais maintenant, nous sommes vraiment des grands amis. Et c'est comme ça qu'on va en avance. Et
bon, merci. 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 Merci.
Notre nouvelle de province n'est pas une bonne nouvelle cette semaine. Le gouvernement provincial du Nord Kivu et les acteurs humanitaires ne disposent plus des moyens suffisants pour continuer à fournir l'assistance alimentaire généralisée dans plus de 30 anciens sites de déplacés. Le vice-gouverneur Feller Lutai Chirwa l'a annoncé lundi dernier à Goma au cours d'un café très animé avec le Programme Alimentaire Mondial, PAM. Désormais, seuls les ménages les plus vulnérables des déplacés seront assistés. Il s'agit de 71 300 personnes, soit 27% de celles qui vivent actuellement dans les anciens camps de déplacés. Ces ménages ont été identifiés au terme d'une étude réalisée en février dernier. Sabine Boge, chargée de programme au bureau du PAM, explique au micro de Rosalie Zawadi la situation.
Puisque normalement l'assistance alimentaire généralisée est donnée pour sauver des vies. Donc c'est ce qu'on fait dans les 3 premiers mois du déplacement. Ensuite, normalement, les ménages trouvent des moyens de se prendre en charge. Donc là, étant donné que cette assistance a été fournie pendant 5 ans, il était important de voir quels sont les plus vulnérables que nous devons continuer à assister, car dans notre mandat, il est important qu'on assiste en priorité les nouveaux déplacés. Donc, en plus de l'assistance qui est fournie dans ces 35 sites, le PAM doit se focaliser sur les nouveaux déplacés et donc une grande partie de nos ressources vont aller à ces nouveaux déplacés.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Lachrid Mouchingazambi, Moukeba, c'est le nom de mon époux, mariée et mère de 5 enfants. Je suis licenciée en pédagogie appliquée au sein français et linguistique africaine. Je suis à la MONUSCO depuis plus de 10 ans, comme journaliste reporter, pour être beaucoup plus concrète, depuis 12 ans. En tant que journaliste, je quitte la maison en 7h30 pour le quartier général de la MONUSCO, où se trouve la radio Capi. Toute la journée, c'est le terrain, le reportage, enfin la rédaction, la diffusion de l'info et d'autres tâches connexes. De retour à la maison, comme j'ai quand même un domestique, je dois passer à la cuisine, examiner ce qui s'est fait à mon absence et si tout n'a pas été bien fait, et je le fais à mon goût. C'est après que je peux me mettre devant la télé avec mon mari et les enfants, juste pour échanger pendant quelques heures et passer ensemble la soirée. Il m'arrive en fond malade d'avoir aussi quelques inspirations et là je note sur mon portable. Et c'est pour dire que je suis écrivaine, j'ai déjà publié 2 romans et une nouvelle. Et je viens de terminer un autre manuscrit intitulé « Dans les méandres de l'opportunisme ». J'ai en même temps dans le chantier un autre manuscrit, c'est un essai qui s'intitule « Les fondements bibliques de la parité ». Disons qu'avant de venir à la MONUSCO, j'ai été professeur de français dans les classes terminales d'une grande école secondaire conventionnée catholique de la place, le collège Alpha Jury. J'ai été coordinatrice ou présidente de certaines associations des femmes où j'ai milité pour la cause de celles-ci en dénonçant toutes les inégalités et injustices dont les femmes sont victimes. Et j'ai été également présidente, d'une association culturelle, le réseau des associations de la francophonie que j'ai moi-même fondé. J'ai été présidente du comité de gestion de l'Alliance franco-congolaise de Bukavu pendant 5 ans. Je suis alors entrée à la radio Kapi comme traductrice d'abord du Desk Chilba pour devenir enfin journaliste reporter jusqu'à aujourd'hui. Mais je dois souligner aussi que j'ai eu plusieurs formations dans le journalisme ici au pays comme en dehors du pays. Ma vie, j'aime beaucoup la lecture, surtout la lecture des œuvres des auteurs classiques, la Bible aussi. J'aime la parole de Dieu, alors voilà pourquoi j'aime beaucoup lire la Bible. Mais il y a aussi des bandes dessinées. Je les aime également parce que c'est depuis ma tendre enfance que je les lisais. Ce sont les bandes dessinées d'ailleurs qui m'ont donné le goût de la lecture. Et j'aime également la musique religieuse et la musique douce. Il m'arrive aussi de préférer beaucoup voyager, parce qu'en voyageant, je découvre d'autres cieux, je rencontre d'autres personnes, et cela me donne aussi de l'inspiration. En matière de nourriture, j'aime les bananes plantains, frites avec du poulet. J'aime également des fruits, surtout des fruits sucrés, et des fruits, disons, ciselés. Comme projet d'avenir, je continue à écrire, et je voudrais être connue des grandes maisons d'édition, faire éditer par exemple des milliers d'exemplaires de mes ouvrages. Pourquoi pas créer une maison d'édition, car plusieurs écrivains congolais demeurent dans l'ombre parce que justement nous n'avons pas de maison d'édition ici au sud Kivu et d'une façon générale dans le pays. Je vous remercie. Hein.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a trait à un éventuel transfert de certains dirigeants de l'ancien mouvement rebelle M23 réfugiés en Ouganda. Suivez.
Moi, c'est Flavien Mssens pour le compte de Planète Télévision. Mon général Aboudala, vous êtes à la tête d'une commission d'évaluation. Vous étiez à Kampala. Vous avez vu les éléments de M23. Mais aujourd'hui, le gouvernement ougandais a accepté de transmettre tous les dirigeants de M23 devant les instances judiciaires. Quelle est la stratégie sur le plan politique que vous avez de votre commission pour que ces dirigeants-là soient réellement transférés devant la Cour de justice?
Écoutez la réponse du général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations.
Et je ne sais pas de quelle justice vous parlez, de la justice ougandaise, de la justice congolaise, de la justice internationale. À ma connaissance, si vous faites référence à la mission que j'ai conduite en Ouganda, c'était une mission qui avait pour objectif d'aller évaluer la situation des ex-M23 qui se sont réfugiés en Ouganda après leur défaite militaire. Nous les avons rencontrés et l'Ouganda nous a demandé de faciliter avec la RDC le retour de ces éléments-là en République démocratique du Congo. Nous avons fait rapport aux autorités congolaises et comme vous le savez, dans le cadre des pourparlers de Kampala conclus par la déclaration de Nairobi, les deux parties ont accepté un certain nombre de choses, notamment que tous ces éléments-là ne seront pas intégrés dans les forces armées ni dans la police nationale congolaise et que ceux qui font l'objet de poursuites pénales ou qui ont commis des violations graves des droits de l'homme ne bénéficieront pas de l'amnistie et devront aller donc répondre de cela devant la justice. Maintenant, pour ceux des éléments à qui il n'est rien reproché, ils vont bénéficier sur une base d'engagement individuel de l'amnistie et pourront ainsi retrouver leur pays et aller dans le processus de DDR pour pouvoir bénéficier du processus de réinsertion. Voilà ce qui a été convenu.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À vos agendas, notez pour la semaine qui commence deux journées qui pourront vous intéresser. D'abord, le 16 avril, la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants, et le 18 avril, la journée internationale des monuments et des sites. Fin de ce magazine présenté par Mila Kimbuni avec l'assistance technique de Willem Lungamba du côté de la régie. Magazine supervisé par Julien Niamweni, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco avec Honoré Missinga hors portage. Retrouvez ce magazine sur www.radiocapi.net. Nous avons besoin de vos suggestions, vos questions ou vos remarques. Alors faites-les nous parvenir par un SMS ou un appel au 082 30 76 630, en nous écrivant à maguen@radiocapi.net ou encore en postant un commentaire sous l'émission sur le site internet de la radio www.radiocapi.net. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente journée dominicale à tous.